je peux pas dire que je connais pas, mais je peux pas dire non plus que je connaisse cette église, parce que c'était vraiment en passant, donc voilà. Mais c'est un plaisir d'être avec vous ce matin, dans le cadre de cet échange de visite d'église, comme le disait Christian. Donc juste un petit mot à mon sujet, j'ai été consacré pasteur dans l'Union des Églises Évangéliques Libres, j'ai été pasteur en basse Saint-Voix, à Aix-en-Provence, et puis à Aix, il y a une porte qui s'est ouverte et le Seigneur a dirigé de cette manière pour que je m'engage avec l'aumônerie protestante aux armées. Et voilà, je suis toujours aumônier dans la région de Lyon en ce moment, aumônier militaire. Et comme je suis sur le rôle, j'ai été sollicité pour vous rencontrer, pour rencontrer votre conseil en tout cas. Et voilà, on me donne l'occasion de prêcher ce matin. Et donc voilà, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et donc, je vous propose de faire deux lectures. La première dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, et puis la deuxième dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Et on va lire ces passages. C'est assez long, mais voilà, c'est comme j'aurai l'occasion peut-être de le redire, c'est le texte qui nous est proposé par la lecture de la Bible en 6 ans. Alors je lis en 1 Samuel, au chapitre 16, les versets 1 à 13. Le Seigneur dit à Samuel, « T'affligeras-tu encore longtemps au sujet de Saül, alors que moi-même je l'ai rejeté et qu'il ne pourra plus être roi d'Israël ? Prends ton huile, mets-toi en route, je t'envoie chez Jessé à Bethléem, car j'ai choisi parmi ses fils le roi qu'il me faut. « Comment faire ?» demanda Saül. « Si j'y vais, Saül l'apprendra et me tuera. « Prends avec toi un veau, dit le Seigneur, tu diras, que tu viens m'offrir un sacrifice et tu inviteras Jessé à la cérémonie. Je t'apprendrai ce que tu auras à faire. Tu consacreras roi à mon service, celui que je t'indiquerai. » Samuel obéit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville, tout inquiets, vinrent au-devant de lui et lui demandèrent « Ta venue annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?»« Oui, répondit-il, je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous pour la cérémonie et venez ensuite avec moi. » Samuel invita aussi Jessé et ses fils à se purifier et à participer au sacrifice. Lorsque ceux-ci arrivèrent, Samuel aperçut Éliab et se dit « c'est certainement celui que le Seigneur a choisi ». Mais le Seigneur lui dit « ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la manière des hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur ». Jessé appela ensuite Abinadab et le fit passer devant Samuel. Il déclara « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Jessé fit passer Shammah, mais Samuel répéta « Le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-ci. » Et Jessé fit passer 7 de ses fils devant Samuel, mais Samuel lui dit « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Puis il ajouta « Tous sont-ils là ?»« Non, répondit Jessé. Il y a encore le plus jeune, David. » « Qui garde les moutons, envoie le chercher, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas le sacrifice avant qu'il soit là. » Jessé le fit donc venir. Le jeune homme avait le teint clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel, « C'est lui, consacre-le comme roi. » Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David et fut avec lui dès ce jour-là. Ensuite, Samuel s'en retourna à Rama. Et puis nous lisons encore dans l'évangile de Jean, chapitre 9, les versets 1 à 41. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? À cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents ?» Jésus répondit, « Ce n'est ni à cause de son péché, ni à cause du péché de ses parents. Il est aveugle pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit ces mots, Jésus cracha par terre, fit un peu de boue avec sa salive, il frotta les yeux de l'aveugle avec cette boue, et lui dit, « Va te laver la figure à la piscine de Siloé. Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava la figure, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qu'il avait vus mendier auparavant demandaient « N'est-ce pas cet homme qui se tenait assis pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » Et l'homme disait « C'est bien moi. » Ils lui demandèrent « Comment donc tes yeux ont-ils été guéris ?» Il répondit « L'homme appelé Jésus a fait un peu de boue, il en a frotté mes yeux et m'a dit « Va à Siloé te laver la figure. » J'y suis allé et après m'être lavé, je voyais. Ils lui demandèrent « Où est cet homme ?»« Je ne sais pas, » répondit-il. On amena alors aux pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, Jésus avait fait de la boue et lui avait guéri les yeux un jour de sabbat. C'est pourquoi les pharisiens, eux aussi, demandèrent à l'homme ce qui s'était passé pour qu'il voie maintenant. Il leur dit « Il m'a mis un peu de boue sur les yeux, je me suis lavé la figure et maintenant je vois. » Quelques pharisiens disaient « Celui qui a fait ça ne peut pas venir de Dieu, car il n'obéit pas à la loi du sabbat. » Mais d'autres répliquaient « Comment un pécheur pourrait-il faire de tels signes miraculeux ?» Et ils étaient divisés entre eux. Les pharisiens demandèrent encore à l'aveugle guéri « Et toi, que dis-tu de celui qui t'a guéri les yeux ?»« C'est un prophète, » répondit-il. Cependant, les chefs juifs ne voulaient pas croire qu'il avait été aveugle et que maintenant il voyait. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents pour les interroger. Ils leur demandèrent « Est-ce bien là votre fils ? Affirmez-vous qu'il est né aveugle ? Que s'est-il donc passé pour qu'il voie maintenant ?» Les parents répondirent « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas ce qui s'est passé pour qu'il voie maintenant, et nous ne savons pas non plus qui a guéri ses yeux. Interrogez-le, il est assez âgé pour répondre lui-même. » Ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus était le Messie. Voilà pourquoi les parents dirent « Il est âgé à répondre, interrogez-le. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Dis la vérité devant Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Je ne sais pas s'il est pécheur ou non. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. » Ils lui demandèrent « Que t'a-t-il fait ? Comment a-t-il guéri tes yeux ?»« Je vous l'ai déjà dit, » répondit-il, « mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous me l'entendre dire encore une fois ? Peut-être que vous désirez, vous aussi, devenir ses disciples. » Ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es disciple de cet homme. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais lui, nous ne savons même pas d'où il vient. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il vient et pourtant il m'a guéri les yeux. » Nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais qu'il écoute tout être qui le respecte et obéit à sa volonté. On n'a jamais entendu dire que quelqu'un a guéri les yeux d'une personne née aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu veux nous faire la leçon. » Et ils le chassèrent de la synagogue. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Il le rencontra et lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme ? Dis-moi qui c'est, maître, répondit l'homme. Pour que je puisse croire en lui. » Jésus lui dit, « Eh bien, tu le vois, c'est lui qui te parle maintenant. » « Je crois, Seigneur, » dit l'homme. Il se mit à genoux devant Jésus. Jésus dit alors, « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui demandèrent, « Sommes-nous des aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugle, vous ne seriez pas coupable, mais comme vous dites, nous voyons, vous restez coupable. » Jusqu'ici, la lecture de la parole. Nous prions. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs par ta parole. Conduis-nous par ta parole, Seigneur, jusque dans la vie éternelle. Amen. Pour la prédication de ce matin, j'ai tout simplement repris les textes qui nous sont proposés aujourd'hui dans le calendrier des lectures bibliques. Vous avez peut-être aussi vu ou reçu en début d'année le petit dépliant intitulé « La Bible en 6 ans ». Si plus tard dans la semaine, vous ne vous rappelez plus des références et que vous voulez les retrouver, bien vous pouvez simplement vous référer à ce petit dépliant. Ça peut sembler un peu aléatoire de reprendre la sélection des textes du jour pour la prédication, mais je me suis rendu compte que souvent, cela nous obligeait à réfléchir de façon nouvelle à des textes sur lesquels on pensait ne plus avoir grand-chose encore à découvrir. On découvre de nouvelles choses parce que les textes lus ensemble s'éclairent les uns les autres d'une façon un peu différente. On voit des choses qu'on n'avait pas vues et ça fait réfléchir à des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Deux textes bien connus nous sont donc proposés ce matin. Le premier dans l'Ancien Testament avec Dieu qui choisit David comme nouveau roi et qui envoie le prophète Samuel lui verser l'huile d'onction sur la tête. Et puis le second dans le Nouveau Testament avec Jésus qui guérit un homme aveugle de naissance. On se demande a priori ce que ces deux textes ont en commun et comment ils pourraient bien s'éclairer mutuellement. Et puis surtout on se demande ce qu'ils pourraient bien avoir à nous dire ce matin. L'épisode de l'onction de David pour Samuel tout d'abord. Il suit le passage où on apprend que Dieu vient de rejeter le roi Saül après une énième désobéissance de la part de Saül, avec Saül qui avait choisi de ne pas faire ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Dieu avait fini par décider qu'il fallait changer de roi. Et Dieu avait déjà fait son choix, il fallait maintenant que le prophète Samuel aille oindre le nouveau roi, qu'il le désigne, qu'il le consacre, qu'il le mette à part au service de Dieu. « Remplis ta corne d'huile et mets-toi en route » dit Dieu à Samuel, et il l'envoie à Bethléem chez Jessé, un homme de la tribu de Juda. Quand il arrive dans le village de Bethléem, tout le monde s'inquiète. On se demande ce que Samuel peut bien venir faire dans ce coin paumé. Est-ce que Dieu l'aurait averti d'un problème ? Est-ce qu'il y aurait, il aurait reçu une vision à propos d'une affaire pas très claire qu'il viendrait pour juger et régler ? Samuel est bien connu, on le reconnaît sans problème quand il passe quelque part. Impossible pour lui de se déplacer incognito. On sait bien que lorsqu'il va quelque part, quand il fait quelque chose, c'est rarement par hasard. Samuel lui-même sait bien qu'il est facile à identifier, qu'il ne peut rien faire sans que cela se sache, sans même que cela remonte jusqu'aux oreilles du roi. Et c'est pour ça qu'il demande à Dieu comment il doit s'y prendre pour mener à bien sa mission sans trop attirer l'attention. Dieu lui répond tout simplement d'aller lui offrir un sacrifice à Bethléem, et quand il arrive à Bethléem, les anciens du village vont tout de suite l'accueillir. La Septante, c'est-à-dire la traduction de la Bible en grec, précise même, mais ça ne se trouve pas dans notre version, quand il arrive, les anciens de la ville lui disent « Est-ce que tu viens pour la paix, voyant ?» Et ce nom, ce surnom de voyant, donné à Samuel, ne se trouve pas dans le texte hébreu habituel, le texte massorétique, mais on le trouve dans le texte de la traduction grecque. Et c'est intéressant parce que même si nos versions n'ont pas retenu ce surnom, on ne le retrouve pas dans nos Bibles, donné à Samuel, il est révélateur de la façon dont son rôle et son ministère pouvaient être compris. S'il allait quelque part, c'était parce qu'il avait dû voir quelque chose, pour vérifier de ses propres yeux quelque chose, qu'il avait dû entreapercevoir. Et même s'il passait par là par hasard, eh bien, il pouvait très bien voir quelque chose qu'on n'avait pas forcément envie qu'il voie. « Est-ce que tu viens pour la paix, voyant ?» Mais même sans ce titre de voyant, qu'on ne trouve pas dans le texte massorétique, Samuel est craint. Il n'est rien de moins que le prophète du Dieu saint, sa présence pourrait annoncer des problèmes. Si j'ai choisi de vous signaler ce petit ajout de la Septante, qui est la plus ancienne traduction de la Bible, c'est aussi d'ailleurs la version que lisaient la plupart des premiers chrétiens, c'est parce que cet ajout dit quelque chose d'intéressant. Ce surnom de voyant parle de la capacité du prophète à voir. Pourtant, quand on lit la suite du récit, on se rend compte que le texte insiste plutôt sur l'incapacité du prophète à voir quoi que ce soit. Après avoir été accueilli par les anciens, Samuel commence par les rassurer. Il minimise sa mission. Il ne leur dit pas tout. Il leur dit simplement qu'il est venu offrir un sacrifice. Il les invite à se purifier et à le suivre. Il invite Jessé par la même occasion et lui dit de venir avec ses fils. Pour Samuel, c'était une affaire qui devait se régler rapidement. Tout le monde devait se retrouver pour le sacrifice. Jessé lui présentait ses fils. Dieu lui désignait le futur roi qu'il avait choisi parmi les fils de Jessé. Samuel l'oignait avec son huile sacrée. Il offrait le sacrifice, ou en sens inverse, il offrait le sacrifice, puis il éloignait le roi, le futur roi. Les choses ne sont pas précisées dans le texte. Et tout le monde rentrait à la maison en attendant que Dieu dirige les choses pour la suite. Pourtant, les choses ne se passent pas aussi simplement. Au moment où Jessé lui présente ses fils, Samuel croit reconnaître d'emblée le futur roi, le plus grand, qui est aussi sans doute le plus fort. Il se le fait présenter. Il s'appelle Eliab, c'est l'aîné, par hasard. Pour Samuel, c'est plié, ça ne peut être que lui. Mais Dieu lui dit, ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. Quelle leçon pour le prophète ! Parce que c'est bien lui qui est remis en question ici. Samuel fait passer les fils de Jessé devant lui, les uns après les autres, du plus âgé jusqu'au plus jeune, en s'attendant à ce que Dieu lui désigne le futur roi. À chaque fois, il est éconduit. Remarquez que Samuel aurait très bien pu croiser David sur la route, avant d'arriver au village. Ça aurait été plus simple, ça aurait été plus rapide. Dieu aurait très bien pu organiser les choses de cette façon, hein, comme il a pu le faire avec une bête aussi. Il amène Moïse jusque là où il va voir le buisson ardent. Dieu aurait pu faire ça. Mais non, les choses ne se sont pas passées comme ça. Il fallait que tous les fils de Jessé passent devant le prophète, les uns après les autres, pour que Dieu précise à chaque fois, non, c'est pas lui. Un peu comme s'il s'agissait pour Dieu de rire de la capacité de Samuel à voir vraiment. Puisqu'à chaque fois, il pense qu'il a trouvé le bon. Il a beau être prophète, Samuel ne voit pas. Il n'arrive pas à voir les choses comme Dieu les voit. Par lui-même, Samuel est incapable de voir. Il faut vraiment que ce soit Dieu qui lui montre les choses. Au verset 10, il nous est dit, « Jessé fit passer sept de ses fils devant Samuel, mais Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Puis il ajouta, « Tous sont-ils là ?»« Non, répondit Jessé, « Il y a encore le plus jeune, David. Garde les moutons. Envoie le chercher, ordonna Samuel. Nous ne commencerons pas le sacrifice avant qu'il soit là. » Le petit dernier, à l'époque, comptait pour quantité négligeable. D'ailleurs, on ne le compte pas dans le groupe des fils. Et c'est là où Samuel fait la différence, parce que lui au moins, le prophète, il arrive à imaginer que celui que les autres ne prennent pas en compte, en fait, compte pour Dieu. Il a retenu la leçon qu'on apprend souvent à l'école du dimanche, vous savez, avec Dieu qui dit « les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur ». Moi, j'avais appris cette version, ce verset avec une autre version qui dit « l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur ». Peut-être que ça vous dit quelque chose. Eh bien, c'est ici que ça se trouve, ce verset, bien connu. Mais on oublie souvent le contexte. On oublie souvent comment le contexte donne son sens à ce verset, ou je devrais dire comment le contexte donne son sens à ce principe spirituel de base. On commence très bien dans la vie spirituelle quand on part en ayant retenu cette leçon. C'est une force aussi tout au long de la vie chrétienne quand on retient ça. Mais ce n'est pas tout de le savoir. Après, il faut encore apprendre à le mettre en pratique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la plupart du temps, on n'arrive pas à voir les choses comme Dieu les voit. Et du coup, eh bien, on doit se montrer prêt à se laisser ouvrir les yeux par Dieu pour parvenir à voir de la même façon que lui. Parce que si même le très grand prophète Samuel a dû y regarder à 8 fois avant de voir les choses comme Dieu les voyait, la 8e fois c'était la bonne, mais combien de fois est-ce qu'il nous faudra à nous, à moi ? Samuel n'avait pas besoin de lunettes, mais il avait besoin que Dieu éduque son regard. Nous avons besoin, nous aussi, que Dieu éduque notre regard. Et cette vérité ne change pas dans le Nouveau Testament. L'autre texte que nous avons lu, et qui se trouve dans le Nouveau Testament, ne parle pas pour sa part d'un regard à corriger ou à éduquer, il parle carrément d'un aveuglement à transformer, d'une cécité à guérir. Il y aurait beaucoup de choses à dire à propos du récit de l'Évangile de Jean qui raconte la guérison de l'aveugle de naissance. C'est un texte assez long, très riche, on n'a pas le temps de revenir dessus dans les détails. On s'arrêtera plutôt sur les effets de la guérison de l'aveugle. Qu'est-ce qui se passe après la guérison? Quel est le sens de ce miracle? Comment Jésus en fait un enseignement non seulement pour ses disciples, mais aussi, surtout, pour les pharisiens et les religieux qui cherchaient à le piéger à cause de ce qu'il avait fait? Pour résumer la première partie du chapitre 9 de Jean, Jésus enseigne à ses disciples qu'il faut apprendre à regarder plus loin que le bout de son nez. Les disciples posaient des questions invraisemblables à Jésus à propos d'un homme aveugle de naissance qu'ils avaient croisé dans la rue. Qui avait péché? Demandaient les disciples à Jésus. Est-ce que c'était lui? Est-ce que c'était ses parents? À l'époque de Jésus, la plupart des gens établissaient un lien direct entre le péché et la maladie. Pour eux, ça ne faisait aucun doute. Quand quelqu'un était malade, on disait que c'était forcément à cause d'une mauvaise conduite. Il devait avoir péché, à un moment ou à un autre, ou alors c'était ses parents. Les éléments de théologie très rudimentaires et erronés qu'ils essayaient de mêler à leurs réflexions ne permettaient pas aux disciples d'avoir une approche cohérente et saine du problème. Et Jésus enseigne à ce moment-là à ses disciples qu'ils ne doivent pas s'en tenir à des raisonnements simplistes et faux. Il faut qu'ils apprennent à se poser les bonnes questions. Il faut qu'ils passent de la question « pourquoi » à la question « à cause de quoi ? Pourquoi ? En vue de quoi ?» Non pas « pourquoi ?» Est-ce que cet homme est né aveugle? Mais en vue de quoi est-ce que Dieu a permis qu'il se trouve dans cette situation? Il faut qu'ils arrêtent de regarder en arrière pour regarder en avant. Comment est-ce qu'un bien peut sortir d'un mal? Eh bien, en effet, Jésus en profite pour faire un miracle, pour guérir cet homme. Jésus vient apporter sa lumière dans les situations les plus désespérées, les plus obscures. Vous voyez bien, il redonne la vue à un aveugle. Et à ses disciples et à nous, il peut permettre de mieux comprendre qui il est, quel est le sens de sa mission en agissant au milieu de ces situations désespérées, face aux malheurs du monde. Il nous faut nous demander ce que Dieu veut faire, comment Dieu peut et veut agir, peut-être même par nous, à travers nous. Comment est-ce que nous sommes appelés à nous situer, à agir? Comment est-ce que nous pouvons être nous-mêmes des instruments pour faire le bien ou pour faire avancer les choses? Alors qu'en principe, on aurait plutôt tendance à dire « Non, là, il n'y a rien à faire, voilà, on laisse tomber, c'est dramatique, c'est comme ça. » Mais après que Jésus ait guéri ce pauvre malheureux, il y a une discussion qui commence avec les pharisiens qui va tourner autour de la question de savoir qui est Jésus. Qui est cet homme qui fait des miracles pareils? C'est la deuxième partie du récit de miracle où Jésus rend la vue à un aveugle en Jean au chapitre 9. Les pharisiens remettent en question le bien fondé de la guérison de l'aveugle. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Jésus a fait son miracle un jour de sabbat. Or la loi, selon eux, dit qu'il ne faut rien faire un jour de sabbat. On a une première partie de culte qui nous a parlé de la loi et du fait qu'on n'était jamais juste par rapport à la loi. Un autre problème de la loi, c'est qu'il faut arriver à bien la comprendre. Si Jésus lui-même agit de façon contraire à la loi, alors selon les religieux, c'est la preuve qu'il ne peut pas venir de Dieu. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Il a agi le jour du sabbat, donc c'est faux, donc il ne peut pas venir de Dieu. Et l'histoire prend tout à coup un tournant dramatique. Jésus devient un personnage suspect. S'il ne vient pas de Dieu et qu'il fait des miracles pareils, c'est-à-dire des miracles contraires à la volonté de Dieu, alors le pire est à craindre. Du coup, il faut aussi enquêter sur lui. On demande à l'homme qui a été miraculé de dire tout ce qu'il sait à propos de Jésus. Mais l'ancien aveugle refuse d'entrer dans ce jeu. Il se rend bien compte que les pharisiens cherchent à le manipuler. Ils tiennent absolument à ce qu'il les aide à prouver que Jésus a fauté à un moment ou à un autre. Petit à petit, l'ancien aveugle commence à voir des choses et à comprendre des choses qu'il n'avait jamais vues, qu'il n'avait jamais comprises avant. Des choses qu'il n'était pas en situation de voir et de comprendre avant, parce qu'en tant qu'aveugle, il vivait de toute façon comme un exclu. L'ancien aveugle, qui a été guéri par Jésus, ne tombe pas dans le piège. Il répond avec beaucoup de simplicité et il s'en tient aux faits objectifs. Il dit aux pharisiens « Tout ce que je sais, c'est qu'avant j'étais aveugle, maintenant je vois. » Il n'en dit pas plus. Mais son témoignage est vrai et du coup, il va se retrouver exclu à son tour de la synagogue. Et quand Jésus le retrouve peu de temps après, il lui demande « Est-ce que tu crois au Fils de l'homme ?» Il faut bien se rendre compte qu'à ce moment-là, au moment où Jésus le retrouve, l'homme qui était né aveugle n'avait jamais vu Jésus, puisqu'il était encore aveugle quand Jésus lui avait touché les yeux. Il était toujours aveugle quand il était allé à la piscine de Siloé pour se laver les yeux. Donc Jésus, il ne l'avait pas vu, donc il ne pouvait pas le reconnaître. L'homme né aveugle demande, l'homme né aveugle donc lui dit, ben, « Dis-moi, maître, qui c'est pour que je puisse croire en lui ?» Et Jésus lui dit, « Eh bien, tu le vois, c'est celui qui te parle maintenant. » Ce que Jésus demande à l'homme qui l'a guéri à ce moment-là, ce n'est pas de porter sur lui un regard naturel, un regard qui voit avec les yeux du corps physique. Ce que Jésus lui demande, c'est de croire en lui. Il doit changer son regard. Il doit le voir et le reconnaître avec les yeux de la foi. Et c'est à ce moment-là que l'homme qui a été guéri peut dire « Je crois, Seigneur » et qui peut se mettre à genoux devant Jésus. L'homme qui était né aveugle s'est mis à voir. Il était aveugle et Jésus l'a guéri. Il lui a rendu la vue. Mais le plus grand miracle, c'est le miracle de la foi. Jésus a fait naître en lui la foi. Il lui a pris au travers de cette expérience difficile, cette expérience qui a même été très longue, douloureuse pour lui. Toute sa vie, jusque-là, il était aveugle. Il lui a pris le regard de la foi, le regard qui voit la dimension spirituelle des choses. Jésus lui dit, « Eh bien, tu le vois, c'est lui qui te parle maintenant. » L'homme se met à genoux devant Jésus. En lui redonnant la vue, Jésus lui apprend en même temps à avoir un regard qui va au-delà des apparences. Le danger, quand on voit avec son regard naturel, c'est de s'en tenir aux apparences. On l'a vu avec le premier texte qu'on a lu. Les pharisiens, pour leur part, n'ont rien vu, ils n'ont rien compris. Et l'aveugle de naissance lui-même aurait très bien pu continuer à ne rien voir et à ne rien comprendre, tout en ayant retrouvé la vue. c'est-à-dire la capacité physique de voir, si Jésus ne l'avait pas éclairé par sa lumière. Jésus ne se contente pas de redonner la vue à un aveugle, il vient aussi et surtout pour apporter un autre regard sur les choses. Il vient pour enseigner à ne pas s'en tenir aux choses visibles immédiatement et à chercher à voir les choses de façon spirituelle. D'ailleurs, il dit au verset 39 « Je suis venu dans ce monde pour qu'un jugement ait lieu, pour que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Un changement doit avoir lieu pour être en situation de voir. Il faut commencer par apprendre qu'on est aveugle pour comprendre qu'on a besoin d'un miracle. Et inversement, quand on voit avec le regard physique et qu'on prétend que parce qu'on arrive à voir, on sait tout, on comprend tout, c'est là, si on s'endurcit, qu'on devient vraiment aveugle. Quelques pharisiens qui se trouvaient près de Jésus, en entendant ces paroles, lui demandent « Sommes-nous des aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répond « Si vous étiez aveugle, vous ne seriez pas coupable. Mais comme vous dites « nous voyons », vous restez coupable. » Jésus renverse la situation. Il montre, il fait la démonstration que ceux qui croient voir sont en réalité les vrais aveugles de l'histoire. Les pharisiens ont été complètement incapables de voir vraiment Jésus. Ils n'ont pas réussi à reconnaître qu'il était l'envoyé de Dieu, le Messie, le seul qui a vu, et le seul qui a vu en Jésus le Fils de l'homme, eh bien, c'est l'aveugle. Et il l'a vu parce qu'il était bien conscient d'être aveugle et d'avoir besoin qu'on lui ouvre les yeux. Il a demandé à Jésus de lui faire voir le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Messie, et Jésus lui a fait cette grâce. Il lui a permis de reconnaître, de le reconnaître. Les pharisiens, qui eux n'étaient pas aveugles sur le plan physique, étaient complètement aveugles sur le plan spirituel. Ils étaient incapables de reconnaître que Jésus venait de la part de Dieu, incapables de comprendre qu'il venait pour nous permettre de détourner les yeux du passé, pour les tourner vers l'avenir, vers toutes les bonnes choses qu'il tient en réserve pour nous. Deux récits, l'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Dans le premier, un prophète qui doit reconnaître celui que Dieu a choisi pour en faire le roi de son peuple. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'en voyant Éliab, l'aîné des fils de Jessé, Samuel se dit en lui-même, ce qui nous est dit au verset 6, c'est certainement lui loin, ou celui qui doit être loin. Littéralement, voilà le Messie. Pour Samuel, cet homme, eh bien, c'était le Messie, celui qui allait être loin. Et pourtant, Dieu dit, non, c'est pas lui, je ne l'ai pas choisi. Et à l'inverse, dans l'évangile de Jean, nous avons lu en Jean 9, les pharisiens pensent pouvoir dire avec certitude que ce Jésus qui fait des miracles, il ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas possible que ce soit lui loin, loin de Dieu. Ils vont très vite en besogne. Le jugement est rapide, grâce à une casuistique bien rodée. Ils réfléchissent comme les ordinateurs. Si ça, alors ça. Le discernement se fait automatiquement. Ils ont une confiance aveugle dans leur capacité de jugement, dans l'infaillibilité de leur discernement. Pas besoin de lumière extérieure, de la lumière de Dieu. Ce Jésus ne peut pas venir de Dieu puisqu'il agit de façon contraire à leur interprétation fallacieuse et bornée de la loi. Alors qu'en fait, il est vraiment le Messie, celui que Dieu envoie pour nous sauver. Il faut une guérison, il faut un miracle pour être rendu capable de voir comme Dieu voit. Et nous en avons besoin pour reconnaître en Jésus le Fils de Dieu. Mais nous avons aussi besoin de cette lumière pour voir autour de nous les choses comme Dieu les voit. Et que pourrait bien voir un visiteur synodal le temps d'un week-end en rencontrant simplement le conseil d'une église. Vous me direz à juste titre que le visiteur synodal n'est pas un prophète comme Samuel. Mais Dieu peut sans doute quand même lui faire la grâce de voir les traces de son action au milieu d'une communauté. Et il l'a fait. Dieu peut lui faire la grâce de le voir de dos en train de passer au milieu de son peuple, comme Élie a pu voir au mont Horeb le dos de Dieu passer. Et c'est peut-être aussi ça le rôle d'une visite synodale, revisiter le passé, non pas pour s'y arrêter, non pas pour s'en lamenter, dans certains cas, dans certaines églises, c'est nécessaire. Ce n'était pas du tout le cas hier dans notre rencontre avec le conseil, je tiens à vous rassurer. Non pas pour s'en lamenter, non pas pour s'y complaire. Quand tout va bien, on pourrait avoir envie de dire, ben voilà, c'est bien, tout va bien, je ne vais pas bouger de là où je suis. Mais pour que le conseil et l'Église elle-même discernent grâce à la lumière de Dieu les petits frémissements, les repères, qu'elles puissent repérer les signes avant-coureurs de son action à venir. Il y a bon espoir pour l'avenir parce que Dieu est présent ici. Il est en train d'agir dans le cœur de chacun de ses enfants, du plus jeune au plus expérimenté. Nous avons tous un rôle à jouer. Il peut nous aider à le voir et à le reconnaître dans le visage du plus petit de nos frères. On ne peut que deviner la profondeur de l'action de l'Esprit, l'Esprit Saint à l'œuvre dans les cœurs et dans les vies. Dieu seul sait vraiment, il sait parfaitement ce qu'il est en train de faire, quel est son projet, ce qu'il est en train de réaliser au milieu de vous. En nous-mêmes, en chacun de nous, Dieu a commencé une bonne œuvre. Il veut la poursuivre jusqu'à son plein accomplissement et nous pouvons très simplement demander à Dieu de mener cette œuvre à son terme. Seigneur, fais ta volonté en moi, fais ta volonté en nous en tant que communauté et en tant qu'Église. Apprends-nous à toujours mieux connaître, reconnaître ton Fils et qu'il nous conduise dans les chemins de la vie, dans les chemins de vérité que tu as prévus pour nous. Et bien que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse tous abondamment. Amen.